mode d'emploi.
La France a peur. Et en face, tel gouvernement qui flippe, quelques gugus paumés qui sortent des grandes écoles comme Harry Potter. Sauf que le balai, ils l'ont dans le cul. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation.
Avec élégance.
Hein, le prix Pulitzer, normalement, c'est pour moi. C'est avec. Alors, pour faire un petit topo là-dessus, un brief, on va faire un brief, comme on dit. Je suis allé à l'événement Open Source ce matin. Vous y étiez pas, vous avez encore loupé celui-là. Grand rendez-vous de start-upers. À chaque fois, je vous dis, mais vous venez pas. Alors, c'est mon dernier recours, parce que les start-upers, c'est l'avenir. Hein. Ils avaient donc des solutions en business innovation. On commence avec un premier et je vous promets que ma question était simplement qu'est-ce que vous faites là ?
Nous, ce qu'on fait, c'est proposer une solution d'orchestration et de clustering.
Orchestration et clustering ?
C'est ça. Donc, on couvre un périmètre fonctionnel qui part de... On est une alternative à des solutions comme Kubernetes, Mesos ou Swarm dans le domaine de l'orchestration de containers, avec la gestion des problématiques inhérentes à ces plateformes qui sont les Ingress Gateway, l'IR4, l'IR7, du réseau de back-end, du DNS privé au cluster.
On a une approche c'est technique, hein ?
C'est assez technique, effectivement, mais...
Est-ce que... Tout ce que vous venez de dire veut vraiment dire quelque chose.
Ah oui, complètement.
Ah voilà, non, mais c'est bon. Hein. Après, j'ai pas le background là, je suis désolé. Mais bon, c'est pour dire, je pouvais pas être plus au cœur de la Startup Nation
c'est
que ça.
Interminable ce qu'il raconte. Oui.
Mais ça veut dire quelque chose, a priori.
Peut-être
qu'il
nous a donné une super info en plus.
Mais peut-être, il y a des gens qui vont nous dire, mais c'était pertinent, voilà. Donc, à Startup Nation, il y avait de la trottinette électrique partout, enfin, ça puait le quinoa, ça transpirait de la conf-call le ASAP. Et il y avait donc ce monsieur qui milite quand même pour un logiciel libre. Ça, il m'a bien dit, pardon. Donc, il résout un petit peu les problèmes d'égalité.
On apporte des solutions qui sont gratuites, qui permettent d'utiliser les logiciels sans dépenser un seul euro. Donc ça, déjà, je pense que c'est un premier pas.
Mais quelque part, ouais. Quelque part, vous êtes un gilet jaune.
Merci pour cette comparaison.
Voire même un zadiste.
Je pense que vous allez trop loin, là.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les gilets jaunes sont dans un process disruptif.
Bah oui, bien sûr, totalement. Ils ont été disruptifs, inattendus.
Les gilets jaunes, ils sont Startup Nation, du coup.
Alors là,
peut-être pas.
Je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse deux minutes à la question.
Ah bah alors là, ça vaudrait le coup, parce qu'on attend tous quand même avec impatience la prochaine prise de parole de Macron. Et vu l'état psychologique du gars, il est capable de commencer par « Salut les connards ! Si vous voulez pas crever, montez votre boîte, d'accord ? Devenez leader dans les inbox. Moi, je partirai pas. Je vais vous faire chier jusqu'au bout. C'est mon projet !» C'est peut-être ça. Donc, devenez tous start-upers. Alors, quelle serait la différence entre les start-upers et les gilets jaunes?
La différence entre eux et nous, c'est que on sait d'où on part. Je suis pas sûr de comprendre et que le sache. Moi, je sais où je veux aller.
Attendez, parce que là, déjà, moi, je sais pas où vous allez dans cette phrase.
La stratégie.
Où vous allez?
Moi, j'ai une stratégie. En tant qu'industriel, j'ai une stratégie.
Mais vous allez où?
On attaque le monde.
Bam. Allez, oh là, on y va, d'accord.
On a un winner.
On attaque le monde, là on a un winner. Hein, ça a quand même une autre gueule que de chouiner pour 20 balles de points total. Je suis quand même désolé. Est-ce que Napoléon, il organisait des manifs pour récupérer la CSG? Bah non, le gars, il attaquait le monde. Si vous avez d'ailleurs un arc de triomphe à taguer aujourd'hui, c'est quand même grâce à Napo. Donc un petit big up pour lui quand vous allez cramer des trucs dessous. D'accord, ça ferait plaisir à tout le monde. Et on continue avec ce monsieur.
Et demain, on va devenir le leader du stockage.
Ça, les gilets jaunes aussi, ils attaquent le monde. Hein.
Oui, mais ils veulent pas être leader au niveau mondial.
Ah, ils veulent pas être leader du stockage.
Madame, vous m'emmenez sur la politique, on va pas y arriver là.
Attendez, ça fait 10 jours que j'essaye de réconcilier la France d'en haut, d'en bas, de côté, dessous. Attention, Guy, restez pas là! Vous allez vous en prendre une à force, je contrôle plus rien. Donc à un moment donné, il faut m'encourager un petit peu. Je suis là pour apaiser le débat. Posons définitivement la question. La Startup Nation est-elle compatible avec les gilets jaunes?
J'en sais rien, j'en ai aucune idée. À mon avis, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu orthogonal, on va dire.
Orthogonal? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Pourquoi mettre des mots simples quand on peut faire compliqué?
C'est pas faux, parce que des mots simples, la majorité, voilà, en utilise et ils sont souvent dénués de sens. Et les autres mots sont juste des mots MAUX, parce que rappelons quand même que Macron fait tirer sa police contre des gosses dans les lycées, disperse les manifs à coups de grenade, laisse des familles se noyer en Méditerranée. Donc le mec voulait diriger la France comme une entreprise. Allez Manu, il est temps de déposer le bilan.
Oui,
bonsoir. Vous êtes bien sur Fréquence Pipe Royale dans l'émission Mode d'emploi. Alors, vous venez d'entendre en fait des extraits de la matinale de France Inter, hein, des humoristes de France Inter. Et également Besancenot qui répondait à M. Bourdin sur RMC. Voilà, donc c'était assez drôle pour le coup parce que la situation actuelle est assez grave, mine de rien. Donc on va en parler ce soir et puis éventuellement également parler de tous les problèmes qui se posent avec la précarité, le chômage, donc le sujet classique de notre émission de tous les vendredis presque, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vous êtes bien sur Fréquence Pipe Royale 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Donc merci. Je suis avec évidemment Ludo et Christophe au micro.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Claude à la technique et Gilles également au micro. Donc on va commencer par effectivement ce qui a en fait plus ou moins déclenché la crise des gilets jaunes, on va dire ça comme ça, ou les mouvements actuels. C'est évidemment la précarité énergétique, c'est-à-dire le prix, d'ailleurs, la hausse des prix du gasoil hein, au départ. Hein. Et puis effectivement, on pourrait penser que les gilets jaunes sont contre le fait de passer à l'électrique, pour le coup. Non, c'est une blague. Hein. Mais voilà, alors, qu'en est-il justement
voilà. Tu vas peut-être te faire menacer de mort.
Alors qu'en est-il justement de cette précarité énergétique, Ludo ?
On s'est aperçu, les instituts de recherche se sont aperçus qu'un certain nombre de ménages français avaient été ce qu'on appelle en précarité énergétique, c'est-à-dire à la fois ne pouvaient plus payer leurs factures, avaient du mal à payer leurs factures d'électricité ou de gaz ou de fuel, tout ce qui permettait de chauffer leur baraque, mais qu'en plus pas de chance pour eux, s'ils habitaient à la périphérie des villes, ils devaient en plus payer le carburant et que ça coûtait beaucoup plus cher que de se loger en centre-ville.
D'autant plus qu'en province, on a souvent besoin de deux voitures dans une famille de deux
exactement,
personnes.
Exactement, surtout quand on est dans des zones où il n'y a pas de transport en commun.
Tout à fait.
Donc, sachant que les entreprises, si elles remboursent en partie le transport en commun, ne remboursent pas tout ce qui est tarif d'essence. Et donc, l'air de rien, on estime ces gens à peu près 15% des personnes. C'est-à-dire, grosso modo, hein, c'est-à-dire qu'au fond, on paye de plus en plus pour des dépenses contraintes, malgré le fait qu'on ait soi-disant des augmentations de salaire. Alors dans certains cas, effectivement, on va dire que les loyers dans le centre-ville, là, ça coûte la peau des fesses, c'est vrai. Mais sauf qu'en banlieue, les gens, ils ont acheté, parce qu'on a encouragé, depuis des années, à devenir propriétaire. Donc ils ont un crédit sur le dos. Mais en plus, ils payent tout ce qui va en plus avec, c'est-à-dire voiture, carburant et chauffage, puisque, comme vous vous êtes sans doute aperçu, les tarifs de gaz et d'électricité ont régulièrement augmenté ces dernières années.
Et c'est pas fini, apparemment.
Bien sûr, au nom, oui, de la dérégulation du service, entre autres d'électricité. Et, et sachant que, les gens qui se chauffent au fioul, c'est souvent qu'ils sont dans des baraques anciennes où il y a encore des, et pas de bol, c'est aussi les moins bien isolés. Donc, ça, en fait, ça représente, tout ça pour dire, que ça représente quand même une quantité qui est non négligeable de personnes et qu'on a, les gilets jaunes sont en partie aussi ces personnes-là. Celles qui dépendent au maximum de l'offre. Alors certes, on peut toujours dire que c'est aussi des gens qui sont très près de leur... qui voient avant tout leur confort de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez deux voitures, c'est beaucoup de voitures par ménage. Mais en même temps, parfois, c'est un peu indispensable pour chacun pour aller travailler. Le confort aussi, c'est une compensation sociale aux efforts faits. Et du coup, c'est intéressant de voir tout d'un coup cette France périphérique qui est incontestablement travailleuse, ça a l'air visiblement d'être le cas des gilets jaunes, qui paye, qui est parfois dit qu'elle paye pour aller travailler, se faire entendre dans les centres de pouvoir et dans les lieux de pouvoir, ou dans les lieux des centres-villes richissimes, c'est-à-dire le symbole, c'est évidemment les Champs-Élysées ou le boulevard Haussmann, pour dire qu'elle est le travail et qu'à la fin, elle paye, par exemple, l'augmentation du carburant quand on fait des cadeaux fiscaux par milliard aux entreprises et aux ménages aisés.
Pour le coup, le gouvernement ne maîtrise plus rien, puisqu'il y a, effectivement, quand on regarde dans l'histoire, on a en 86, le Devaquet, les étudiants qui sont dans la rue avec les lycéens. Il y a un mort où c'est Keane. Après, c'est 95 où effectivement c'est assez structuré comme manif et tout. Hein, on est là-dessus, on est d'accord. Après, il y a Nuit debout qui était pas mal. C'était quelque côté festif et sympa et de débat, etc. Et là, pour le coup, là, c'est le mouvement populaire non structuré qui monte et qui tient depuis 3 semaines de mémoire, 3 semaines ou 1 mois, les routes, etc. Et des manifs un peu sanglantes, enfin, on va dire que là, pour le coup, sanglantes, il y a eu quand même.
C'est relatif.
Il y a eu quand même des blessés, il y a eu 2-3 morts, je crois, de mémoire, qui c'était peut-être des accidents, mais voilà. Donc là, le fait qu'il y ait, soit non structuré, ça déconcerte complètement le gouvernement, qui ne sait plus comment faire, et ils ont commencé à reculer par rapport justement à la taxe sur le carburant. Mais les revendications, elles viennent un peu dans tous les sens. Elles sont pas. Je te laisse la parole, Christophe. Elles viennent dans tous les sens. Et en fait, on est passé d'une taxe de carburant à l'annulation de cette taxe à une augmentation du SMIG. T'as vu toutes les revendications qui sont dans la rue. J'ai entendu quelques gilets jaunes qui disaient qu'ils voulaient que ce soit 1300 à 1500 euros le SMIC de départ. Ouais. Enfin,
bon. C'est très intéressant parce qu'en fait on a un mouvement qui n'est pas soi-disant pas structuré, mais bon, et encore je sais pas, hein, mais en tout cas qui n'a pas de représentant officiel et qui est hors syndicat. Alors il faut se rappeler quand même que toutes les manifs de salariés dont celle que tu parlais sont aussi quand même à la base des syndicats, qui y compris 1995 souvent. Nuit debout, c'est vrai, mais oui. Et comme par hasard, on dénonce souvent l'extrême gauche, les casseurs. Hein. C'est des manifs qui se passent tout à fait bien, qui sont les trois quarts du temps plutôt, enfin qui se passent tout à fait bien. Pas du point de vue des manifestants, on va dire.
Enfin, mais presque bon enfant à la limite.
En comparaison, ouais. Ouais. Et enfin, du point de vue des forces de l'ordre, ça se passe bien. Pas du point de vue des manifestants, mais en réalité, et c'est souvent des manifestations qui sont éloignées des centres de parcours des manifestations, et vite soigneusement tout ce qui est Élysée, etc., etc. Et donc le gouvernement est là, et effectivement. Tout d'un coup, essayer de se raccrocher au fait que les casseurs, c'est forcément l'extrême droite ou l'extrême droite. C'est-à-dire que ça peut pas être le peuple en colère. Hein. Jamais. Ça, bah, surtout pas. Oui. Et en plus, à chercher désespérément des représentants. Tout d'un coup, des cadres. On voit ce que c'est que le dialogue social dans ce pays. Le dialogue social, c'est aussi des mesures préparées qui doivent être acceptées par les syndicats.
Mais là, on est justement dans le cadre des parutions immédiates, hein, dans ceux qui se sont fait arrêter. On s'est bien rendu compte, en tout cas, quelques articles de presse en parlent, que ce n'est ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, c'est monsieur tout le monde, donc c'est monsieur des gens qui viennent de la province, qui sont a priori pas politisés. En fait, ils sont certainement politisés, parce que je pense que ces gens-là votent aussi, mais ils sont apparemment pas politisés, et finalement, c'est là où il n'y a plus de repères pour le gouvernement, c'est-à-dire que là, ils sont plus en face d'un mouvement identifié, si tu veux, tu vois. Christophe, tu veux intervenir là-dessus?
Oui, parce qu'en fait, c'est très protéiforme. C'est très, très protéiforme. Alors, on dit que c'est beaucoup noyauté par le Rassemblement national, mais c'est tellement protéiforme, en fait, c'est la conséquence d'une politique liée à la périphérie, et du déclassement. Il y a un géographe dont j'ai oublié le nom qui a publié un excellent bouquin il y a quelques années sur la notion de déclassement et lié à la périphérie urbaine. Et c'est donc c'est tous les gens qui sont issus des classes moyennes et petites bourgeoisies qui, du fait de l'augmentation du bâti mais aussi de la concentration des industries, se retrouvent à avoir une voiture parce que la voiture, c'est le truc qui leur permet d'avoir leur salaire et leur boulot. Donc les mecs qui vont bosser pour 1200 balles, 1500 balles, seulement du fait de l'augmentation du coût de la vie et de la modération salariale, clairement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les 20% ou 30% de salaire qui leur manquent par rapport à il y a 15 ans, ça fait que c'est plus tenable. Donc c'est tout simple. Et donc tous ces gens-là qui n'étaient pas forcément politisés, encartés et tout, ils se retrouvent plus dans un corps intermédiaire, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats et autres lobbies de représentation, hein, pour dialoguer. Et ils s'organisent indirectement par une démocratie virtuelle et horizontale qu'est Internet. C'est ça qui est novateur. C'est-à-dire que Internet devient une forme de contre-pouvoir. Alors il y a à boire et à manger, quoi.
Oui, bien sûr.
Et évidemment, il y a différents. Ce qui peut se passer, c'est que ce mouvement peut aussi qu'il était spontané, peut aussi s'autodétruire du fait du manque de représentation et aussi de cahier de doléances clair. Ça c'est. Il y a beaucoup de gilets jaunes dans les sensibilités des gilets jaunes. Il y en a qui sont très radicaux, mais d'autres qui sont dans des logiques totalement pacifiques.
Ludo, oui. Alors moi, J'avoue, hein, j'ai lu juste un ou deux éditos un peu sanglants juste avant de venir, là, d'un certain Frédéric
Lordon, aussi, là,
c'est
le
vrai. Et je reconnais un truc, c'est que cette histoire de cahier de doléances, le gouvernement n'attend que ça pour déminer une crise qui, en fait, est bien plus profonde que la simple annonce.
Tout à fait.
Et qui est aussi l'orientation politique de Monsieur Macron. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de trois petites bricoles, parce que on peut en parler tout de suite. C'est-à-dire le Premier ministre qui dit allons, le SMIC va augmenter de 3%, de quoi vous vous plaignez. Alors il cumule deux hausses successives.
Oui,
mais la vérité, c'est que juste avant le mouvement des Gilets jaunes, le groupe d'experts qui est chargé chaque année d'évaluer l'augmentation du SMIC était contre le coup de pouce du SMIC. Et c'est-à-dire qu'il était, oui, il y avait une augmentation annuelle, mais contre le coup de pouce. Une augmentation annuelle indexée sur, grosso modo, le coût de la consommation, mais des gens les plus bas, hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment tout à fait ridicule. Et le rapport trouvait même que le SMIC augmentait trop vite, et qu'il fallait donc ne plus avoir d'augmentation annuelle. Et donc le désindexer, en fait, de ce qui était prévu. Ça, c'était dans les cartons. Alors évidemment, le gouvernement est quand même pas suicidaire, donc il a pas avalisé le truc. Mais enfin, la politique extrêmement libérale de ce gouvernement, et c'est juste un exemple, hein, je parle que du SMIC, je parle évidemment pas des cadeaux faits au patronat. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de... Vous voyez, le comité des experts, qu'est-ce qu'ils avaient dit exactement? Ils avaient dit que l'augmentation du SMIC, qu'est-ce qu'il fallait éviter? Le problème de cette augmentation du SMIC, c'est qu'il fallait éviter que l'augmentation du SMIC entraîne par ricochet une augmentation de l'ensemble des salaires en bas de l'échelle.
Ah, c'est-à-dire que, hallucinant.
Ou dans ce cas où l'augmentation ne se transmet pas au niveau supérieur, qu'elle réduise l'éventail des salaires en bas de l'échelle. Grosso modo, pour le patronat, il faut quand même qu'il y ait des salaires suffisamment bas et qu'il n'y ait pas trop de différence, hein, de tassement, d'égalité entre ceux qui sont plus bas et puis ceux qui sont intermédiaires. C'est ça que c'est bien sûr. Et c'est écrit en toute lettre dans un rapport transmis au gouvernement, juste avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc, l'augmentation de coup de pouce n'a pas eu lieu depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'arrivée de François Hollande. C'est la seule qu'il y a eu. Et donc, effectivement, le SMIC, en fait, perd du pouvoir d'achat.
Tout à fait.
Quand on compare par rapport à l'inflation. C'est juste un exemple, mais c'est pour dire que les politiques économiques qui sont menées dans ce pays depuis 20 ans sont, effectivement, elles ont un coût social qu'on vérifie tous les jours. Voilà. Et donc, la liste de revendications, allez. Voilà.
On pourra en rajouter quelques-unes des revendications d'ailleurs, non? Pourquoi pas, hein?
Ben, ce qui est tout à fait, mais ce qui est problématique, c'est que ce soit Emmanuel Macron ou les gouvernements précédents, ils obéissent aux directives du traité de Lisbonne et aux directives européennes d'une politique ultralibérale, et les mecs qui font ça, ils ont minimum 15 000 euros de salaire par mois, quoi.
Mais moi, mais en Italie, ils font autrement. Alors c'est vrai, ils ont 15 000 euros de salaire par mois. Ça les aide à faire ce genre de politique, éventuellement. Oui. Mais il y a des mouvements politiques. Alors c'est vrai, il y a des mouvements politiques qui sont
plus ou moins
bridés par l'Europe. Non, mais en Italie, je veux dire, on a à la fois une alliance, c'est un peu la carpe et le lapin, oui. Enfin, qui est parti politiquement sur des bases faire exploser le déficit.
Je crois qu'ils ont même annulé la dette, je crois, non? Ils n'ont pas réussi à...
Non, en Italie, non.
Ah non, c'est en Espagne.
Non, pas.
Je crois que c'est en Espagne.
En Espagne, non. Mais en tout cas, il s'agit juste de s'autoriser un déficit un peu plus élevé que le déficit actuel. Or, le déficit italien actuel, annuel, hein, je ne parle pas du déficit cumulé, du déficit total, le déficit, il est plus bas que le déficit français. Donc, il est à peut-être à 0,9. Mais comme ils ont une dette importante, on leur dit non, on ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit, d'augmentation de salaire ou de quoi que ce soit. Donc,
ouais. Alors, à contrario, laisser couler le déficit et donc s'endetter, comme ça a été fait au Portugal par un groupement, une coalition très à gauche, a eu pour conséquence une augmentation de la qualité de vie et du retour de la croissance. Et aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est que alors qu'il y a eu un endettement important, l'OCDE, entre autres, se félicite du retour de l'emploi au Portugal. On croit rêver, quoi.
Mais Monsieur Moscovici déclare qu'à long terme, il faut se méfier de l'augmentation du SMIC et que à long terme, l'histoire montre que les politiques keynésiennes, hein, malgré toute sa sympathie, c'est pas recommandé. Mais c'est vrai que l'Europe a de plus en plus un pouvoir coercitif. Ça, c'est évident. Mais n'empêche que la politique de Macron, il l'amène parce qu'il en est convaincu. C'est pas l'Europe, il ne peut pas attribuer à l'Europe le, non, ses choix politiques.
C'est, oui, voilà.
Ouais, c'est le think tank d'Attali, je crois, en fait, au départ, non, plus
exactement,
ou moins.
Exactement, parce qu'en fait, c'est le secrétaire de la, de la commission. Attali. Et effectivement, il a réuni, lors de son mandat, il a réuni tous les anciens de la commission Attali. Enfin, et qui prévoyait au passage, la libéralisation des transports.
En fait, ce qu'on voit bien actuellement, comme on a toujours su et même vécu et vu depuis toujours, c'est qu'il y a bien deux mondes différents et qu'il y a ceux qui augmentent leur salaire, qui sont en haut de la pyramide, hein, ce qu'on pourrait appeler les premiers de cordée, et les derniers de cordée, bah, qui commencent à se révolter, et ben, c'est bien que ça se révolte un petit peu de temps en temps quand même, hein. Je pense que voilà, moi je m'en félicite pour le coup. Alors bien sûr, je condamne toutes les violences, bien que les violences viennent pas.
Ça va être compliqué, hein.
Oui, bien que les violences viennent pas automatiquement des casseurs, parce que les casseurs c'est qui, on ne sait pas trop. Mais bon, la violence c'est quand même une violence d'État, et donc elle l'a toujours été, et donc il faut commencer à se révolter un petit peu. On écoute une petite chanson, on reprend la parole par la suite.
Un petit peu, hein.
Voilà.
L'économie, elle est mondialisée depuis bien longtemps. Et ceux qui prétendent combattre les dégâts du capitalisme au nom de la lutte contre la mondialisation se trompent de combat.
Le combat continue.
À toi. Excusez-moi, j'étais en train de discuter hors micro. Donc on va reprendre la parole donc pour parler évidemment. Donc vous êtes bien dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires sur Fréquence Paris Pluriel, donc 106.3 FM, la seule radio de l'Île-de-France qui est encore révolutionnaire. Voilà. Donc en fait, on va parler maintenant, si tu veux bien,
avec Libertaire.
Avec Libertaire, bien sûr, merci. On va parler bien sûr du travail précaire, puisque finalement cette manifestation des Gilets jaunes, enfin cette révolte des Gilets jaunes, c'est aussi c'est les petits, c'est les gens qui n'ont pas de salaire ou très peu de salaire, et également ceux qui n'ont pas, qui sont au chômage ou qui sont en difficulté de
précaires,
qui sont vraiment précaires pour le coup. Donc alors, qu'en est-il du travail précaire aujourd'hui?
Apparemment, dans la start-up, il y aurait un process brainstorming très inadéquat dans la conquête du monde. Hein. C'est un peu étonnant, mais on dirait que c'est possible. Et puis, d'un autre côté, il y a Mohamed, c'est un article là, qui est très intéressant, qui évoque ce qu'il vit au quotidien comme 800 000 personnes en France. C'est-à-dire que il a une qualification. Il est reprographe. Et il alterne période de chômage et court CDD par la grâce tout simplement des lois M. Khomri, de toute la précarité qu'on a instituée en France. Et puis il y a un problème, c'est que au départ, lui, il avait des règles de contrat court, il cumulait ses allocations au chômage. Et alors le gouvernement, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, et donc ça concerne beaucoup de monde, veut assouplir ces règles qui permettent d'avoir une activité réduite plus un complément d'assurance chômage. Donc pour lui, il dit que depuis 2012, il travaille en activité réduite, il décrache quelques contrats par an, CDD ou mission d'intérim, et puis chaque mois, c'est un nouveau combat. Il le dit, hein, je suis bateau en fin de droit, je cherche toujours du travail, je prends ce qu'on me donne, je fais des remplacements, des missions d'un mois, un mois et demi. Donc évidemment, ce genre de personnes qui témoignent là spontanément, on leur donne pas la parole dans les grands médias, clairement identifier la précarité quotidienne de ce prolétariat qui est parfois très qualifié, hein, faut pas rêver, hein. Et donc quand il travaille un mois, Mohamed, il gagne à peu près 1 300 € net. Ça lui permet de recharger ses droits à l'assurance chômage. Et puis quand il travaille pas, il touche 600 € d'allocation. Il dit que c'est un filet de sécurité. Ça lui permet juste de payer son loyer. Et honnêtement, j'ai pas grand chose pour finir le mois. Je suis obligé d'aller au resto du cœur, de bénéficier de colis alimentaires. Ces aides sont vitales. Oui, sauf que dans le cadre de la future réforme de l'assurance chômage, devine quoi ? Eh bien, le gouvernement et le patronat estiment que les règles actuelles, qui permettent donc de cumuler une activité et une allocation, n'incitent pas les chômeurs à retrouver un emploi durable. Or, moi, je regrette quand on s'inscrit dans des agences d'intérim et qu'on fait différentes boîtes, c'est qu'on veut s'insérer dans la société, avoir un salaire tous les mois et donc s'inscrire dans une logique durable. Mais pas le gouvernement. Et voilà ce que dit Mohamed de son expérience, et ça concerne des centaines de milliers de travailleurs. les employeurs veulent plus du CDI. On n'est pas prêt de lui donner tort à Mohamed. C'est pas ce qu'on m'a proposé. On m'en a jamais proposé que je voulais pas. Non, les employeurs abusent car le système les arrange. Ils ont moins de frais. On est comme des Kleenex. C'est pas précarité doit s'arrêter. Tout est dit.
Très bien.
Mais je vais juste préciser que dans la négociation qui est en cours, Monsieur Macron hein, voulait lutter contre les contrats courts et donc il était plein de bonnes intentions et sauf que il a oublié au passage hein, dans la lettre de cadrage qu'il a adressée aux partenaires sociaux le bonus malus imposé aux entreprises qui avaient recours aux contrats courts et on comprend pourquoi en fait le MEDEF est vent debout contre cette taxation et donc il préfère tant qu'à faire se rattraper sur les chômeurs et considérer que finalement les droits rechargeables sont une trappe à précarité. C'est-à-dire que ça permet la précarité.
C'est ça. Ouais.
Et alors, d'un certain point de vue, il n'a pas tort. Pourquoi ? Parce que finalement, il se passe ce qui se passe pour d'autres régimes par exemple l'intermittence. C'est-à-dire que l'État vient à la rescousse d'emplois qui sont en miettes, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire
oui, c'est ça, c'est les emplois en miettes.
Eh bien... Le patronat s'engouffre dans la brèche en faisant porter la responsabilité de la précarité sur l'indemnité, l'assurance, l'indemnité chômage.
C'est-à-dire la collectivité, voilà. C'est-à-dire tous,
collectivité.
C'est
voilà,
les actifs, les travailleurs.
Voilà. Mais en même temps, heureusement, on va mettre de l'ordre. Et de l'ordre, ça veut dire que pour mettre fin à ces trappes à précarité, il faut supprimer les aides.
Bien sûr.
Parce que sans aide...
C'est un pognon de dingue.
C'est un pognon de dingue. Et sans aide, il y aura plus d'emplois.
Ouais, c'est logique. Bizarre comme ça. Oui, enfin bon...
Non.
Oui, c'est logique, mais sauf que ça s'est jamais vu. Enfin bon, a priori...
Exactement. C'est tout à fait ça dans l'histoire. Ça ne s'est jamais vu.
Ça s'est jamais vu. Et je vais te donner un exemple concret.
Payer pour travailler.
Tout à fait. Je vais te donner un exemple concret de ce genre de logique très constructive. C'est que la baisse des contrats aidés a entraîné 77 000 suppressions d'emplois. Donc on parle des aides de l'État, de l'assurance, des choses comme ça. Et bien là, c'est une étude de la DARES, parce que figure-toi que ces suppressions de postes, essentiellement dans le secteur non marchand, ont poussé plus de 50 000 personnes chez Pôle emploi. Et c'est donc une baisse qui avait été annoncée, elle n'est pas sans conséquence sur les chiffres d'emploi, puisque, je rappelle, il y avait encore 260 000 à peu près contrats aidés en 2017, contre 400 000 en 2016, donc c'est une baisse assez conséquente. Et cette diminution aurait entraîné 77 000 suppressions de postes, tout en poussant pas mal de personnes sur Pôle emploi, comme je le disais.
Si c'est le service statistique du ministère du Travail qui le dit.
Qui le dit, oui. Et voilà. Et alors,
c'est énorme.
C'est énorme, d'autant que quasi-totalité des contrats aidés sont signés dans le secteur non marchand. C'est là où il y a la signée la plus importante. C'est en tout 227 000 contrats subventionnés qui ont été comptabilisés fin 2017. Et les effets sur l'emploi d'un contrat aidé sont d'autant plus élevés que la baisse du coût du travail induite par les aides est importante, explique la DARES. Donc c'est tout le secteur non marchand, associatif, entre autres, parapublic est là, et puis public aussi, puisque l'intérêt du contrat aidé, c'est que le fait qu'il y avait peu de charges, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas un frein important lié à la contrainte financière, et que donc la baisse du coût du travail était maximale. Et donc, ça intéressait évidemment tout le secteur associatif ou autre, puisque le contrat était pris en charge à 70% par l'État. Hein. Et il y a aussi donc ça a des conséquences. D'une part, c'était une bouée de secours, notamment dans des régions fortement paupérisées. Hein. C'est-à-dire que la diminution du nombre de contrats aidés va encore, une fois de plus, aggraver la situation du marché de l'emploi dans des zones déjà sinistrées, puisqu'au départ, le contrat aidé, je le rappelle, ça avait vocation à insérer des personnes éloignées du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on était dans une logique de personnes peu employées, qu'on redonnait des compétences avec une logique de formation derrière eux. Et c'était principalement au départ signé dans des zones où taux de chômage était élevé, donc ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles et autres dispositifs importants ou qui étaient particulièrement sinistrés en termes d'activité économique. Donc ces conclusions risquent en tout cas d'apporter du grain à moudre aux défenseurs des contrats aidés. Et d'ailleurs, le Sénat avait indiqué que la disparition brutale d'un tel ensemble de contrats, ça, on avait été trop fort quoi à ce niveau-là, puisque ça permettait aussi de créer du lien et une possibilité d'intervention pour les maires des petites communes. Donc c'est un constat qui est partagé par la Cour des comptes. Hein. La Cour des comptes disait également que du fait de cette logique-là, en fait, on en est arrivé à ce que les contrats aidés deviennent extrêmement coûteux et pas efficaces, puisque quand on pérennise pas par des formations, par une insertion durable, bah en gros c'est un peu de l'argent, qui a été pas inutile. Mais qui a mal été utilisé. Toujours est-il qu'il y a une nouvelle enveloppe de contrats aidés très réduite qui est prévue. Hein. Alors le gouvernement se défend en disant nous on préfère le pari de la formation. Hein. Madame Pinicaud, ministre du Travail, avait annoncé que les contrats aidés allaient être remplacés par des parcours emploi compétences. Pour moi, un parcours emploi compétences, ça ne veut pas dire qualification professionnelle, diplôme d'État ou brevet d'État.
Ah non, bien sûr que non. Non
qualification,
non.
Donc.
C'est juste certifiant, à la limite.
Voilà. Du fait de ça, en juin dernier, parce que le parcours emploi compétences, comme il n'y a pas de qualification au bout qui reconnaît une plateforme métier, on va parler.
Il y aura peut-être une qualification, mais elle ne sera pas reconnue par les.
Voilà. On va parler dans la novlangue de la Startup Nation pour conquérir le monde. Mmh. La barre des 10 000 ans, parcours emploi compétences a été signée. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de qualification derrière, ça ne va pas servir à grand-chose. Et c'est vraiment actuellement une nouvelle poche de paupérisation faite par l'État de fait.
Merci Christophe. On s'écoute une petite chanson, on reprend la parole par la suite. Et oui, donc c'est bien l'émission Mode d'emploi, émission d'agir ensemble contre le chômage, AC1920, sur Fréquence Paris-Pluriel 106.3 FM. Je suis avec Christophe et Ludo, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Je vous représente pour les gens qui viennent d'arriver sur l'antenne.
Bien sûr.
Claude à la technique et bien sûr Gilles au micro. Donc on reprend cette émission puisqu'on parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Évidemment demain il y a une grande manifestation, j'espère que beaucoup de gens y iront parce que c'est quand même important d'y être, même si effectivement il peut y avoir des débordements. Voilà, évitez les débordements si vous pouvez, hein, voilà, c'est l'idée que je m'en fais. On va reparler par contre sur l'aide le CICE, donc c'est 40 milliards je crois de mémoire, que l'État donne aux entreprises, plus allègement de charges, etc., pour apparemment créer de l'emploi. Mais apparemment, cet argent va dans les poches des fonctionnaires, des actionnaires, c'est ça?
Oui, alors absolument, parce que...
Des fonctionnaires, j'allais dire.
Absolument, parce que pendant que les Gilets jaunes manifestent, le gouvernement a adopté la loi de finances 2019, le 3 décembre. C'est l'Assemblée nationale qui a adopté la loi de finances pour l'année prochaine, et cette dernière contenait deux grandes mesures de justice sociale et fiscale. Deux grandes mesures de justice sociale et fiscale du gouvernement Macron. Donc la pérennisation du CICE. Le CICE, c'est le crédit d'impôt compétitivité, je crois.
C'est ça, emploi. Hein, ouais.
Emploi, compétitivité, emploi, très ouais. Bien nommé donc, ouais. Qui avait été mis en place par François Hollande, et l'allègement de charges qui suit, et donc là, qui est une initiative... Alors, la pérennisation est une initiative du gouvernement Macron, mais l'allègement de charges pour les cotisations patronales de l'assurance maladie de 6 points de pourcentage...
C'est énorme.
C'est énorme. Pour les salaires qui vont jusqu'à 2,5 SMIC, et plus des 4 points de l'assurance chômage, parce que l'assurance chômage n'est pas en déficit, hein, comme vous l'avez noté. et les retraites complémentaires, donc jusqu'à 1,6 SMIC. Alors évidemment, on disait que tous ces allègements de charges, je vais commencer par les allègements de charges sur les bas salaires, étaient des trappes à bas salaires, parce qu'elles maintenaient
tout à
les
fait
gens dans les bas salaires et qu'il y avait un équilibre.
Ça, ouais, ça on
et
l'a
ben,
maintenu.
Voilà, et ben, ça, on l'a souvent et ben Monsieur dénoncé. Macron a donc trouvé la parade, ces trappes à bas salaires. Il s'agit d'exonérer le haut des salaires. Augmenter les salaires, non, mais les exonérer, oui. Enfin, augmenter les salaires, vous voyez, selon les économistes, comme ça, là, c'est pas terrible.
Pour les salaires les plus importants, donc, apparemment, donc, pour le coup.
Pour l'exonération, pardon
pour les, c'est l'exonération pour les salaires les plus importants.
Alors, non, les plus non, n'exagérons pas, 2,5 SMIC, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais c'est-à-dire que là, tu déplafonnes carrément, effectivement. Et 1,6 SMIC, bon, c'est plutôt le moyen, et c'est l'assurance chômage. Bon, parce qu'à 2,5% du SMIC, peut-être que t'as pas besoin de l'assurance chômage, dont je plaisante, bien entendu. Et donc, ça représente, alors, ça pose une vraie question, hein, c'est-à-dire que ça a été vendu comme du pouvoir d'achat redonné aux salariés. La question, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a rien à connaissance dans la loi qui oblige les entreprises, qui exonèrent les charges salariales
d'être redonnées aux salariés.
Je ne crois pas, c'est, hein, à ma connaissance, parce que j'ai entendu le vice-ministre disant qu'il allait avoir des augmentations de salaire liées à ça, mais et le non. vice-président du MEDEF dire ça. Et non. Et donc, alors. L'autre mesure, c'est bien sûr le CICE. Le CICE, ça, donc le crédit impôt compétitivité et emploi, qui représente 4 à 6% de la masse salariale.
C'est pas rien.
Hein.
C'est énorme. Énorme. Ouais.
Et évidemment, il paraît que ça devait créer de l'emploi. Mais pas de chance, ça a surtout servi à augmenter les marges des entreprises. Et personne n'est dupe, parce que à l'époque où ça a été mis en place, il y avait un débat entre Montebourg et Hollande et son équipe.
Et Hérault.
Voilà, et Hérault et Montebourg étaient pour redonner des marges, regonfler les marges des entreprises. Et on sait très bien que le CICE, en fait, s'il avait une inefficacité économique, c'est celle de ne pas permettre qu'on supprime de l'emploi ou de maintenir éventuellement de l'emploi via la reconstitution des marges. Éventuellement, c'est le seul, hein. Mais en termes de création d'emplois, tout le monde avait bien compris que vous vous souvenez du pins de Gattaz.
Oui, il y a un million d'emplois.
Ah oui, oui.
Voilà, il n'est plus. Donc voilà.
C'est plus
et
à
puis
la mode.
Il y a un autre effet, c'est que c'est les grands groupes qui en ont profité.
Bien sûr.
Alors à titre d'exemple, Carrefour, premier employeur privé de France, on estime, enfin c'est la CGT qui estime à 744 millions d'euros le montant du CICE versé ces 5 dernières années. La Poste et la SNCF touchent chacun environ 300 millions d'euros annuels au titre de ce cadeau fiscal. Et le groupe Banque Populaire en tire de son côté 100 millions d'euros par an. Alors, en termes de création d'emplois, que disent les rapports officiels sur cette mesure? Alors, par exemple, là...
1 million d'emplois plus.
Non, ça c'est pas les rapports officiels. Ça c'est le président du MEDEF. Et donc, les gens disent que toutes ces mesures cumulées, enfin les gens, excusez-moi, c'est l'Institut des politiques publiques, IPP, qui estime que les deux mesures cumulées chiffrent à 0,8 points de PIB l'impact d'une mesure sur le budget de l'État. C'est énorme, en fait, hein. Parce que bon, on dit qu'il y a plus de sous dans les caisses et qu'en plus faut s'ajuster et couper dans les dépenses, etc., etc. Évidemment que ces baisses de cotisations devraient par ailleurs, enfin, bénéficier plutôt au secteur intensif en main d'œuvre peu qualifiée, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, les services administratifs. Bon, ça, ok. Mais l'hôtellerie et la restauration, c'est-à-dire que c'est les endroits où en fait il y a un turnover très fort des emplois et où justement les emplois sont les plus dégradés, mais bon, c'est eux qui profitent évidemment pleinement du CICE et puis surtout des baisses de charges parce que ça leur coûte moins cher. Alors les évaluations de l'impact du CICE sont plutôt mitigées, dit l'Institut des politiques publiques.
Avec ces choses sont dites délicatement.
Voilà, des effets positifs sur les marges des entreprises, mais des effets modestes de l'emploi et quasi nuls sur l'investissement, parce que c'est le grand totem ou de Monsieur Macron, c'est-à-dire que baisser l'ISF ou baisser les charges, c'est relancer l'investissement. Ça fait 30 ans que l'investissement dans ce pays n'est pas reparti. Donc voilà, donc au total, effectivement, donc le chiffre est celui-là. On entérine 40 milliards d'euros de cadeaux fscaux au patronat.
Merci,
Ludo. Cumulé, je précise, hein, quand même.
Christophe ?
Ah oui, il y a trois observations par rapport à ça, mais on le savait, nous, dans cette émission et des courants d'idées qu'on présente, on en est convaincu. Premièrement, c'était un outil de communication de la part du patronat pour créer 1 million d'emplois. On savait très bien que dès le départ, le crédit impôt compétitivité, ça allait être une marge de manœuvre pour les bénéfices des actionnaires des grandes boîtes. Et que toutes les grandes boîtes allaient faire ensuite, via leurs prestataires externes, du chantage. Vous avez le CICE, dans ces conditions, vous nous baissez la marge du produit ou de la prestation que vous nous vendez. C'est tout le monde a fait ça. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les petites et moyennes entreprises qui ont gagné au CICE. Alors, c'est la première créateur d'emplois au niveau industriel et dans le secteur marchand. C'est pas eux qui ont créé ça, c'est ces grosses. En fait, c'est les entreprises du CAC 40 et affiliées au second marché qui ont récupéré la manne financière, premièrement. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que quand on nous dit que l'État a pas de sous, ben voilà un bel exemple. Avec 40 milliards d'euros, tu peux augmenter. Il y a combien de millions de smicards en France? Il y en a 7, bah, tu l'as ta marge de manœuvre là.
Oui,
tu l'as carrément. Oui, bah, 200 euros ou 300 euros net pour les smicards et plus au niveau des conventions, ta marge de manœuvre, tu l'as. Et en plus, ça te greffe même pas ton budget. Donc là, on est vraiment dans... oui, ça va faire quoi? Grincer des actionnaires? Ils ont pas investi.
Alors,
de toute façon, ils investissent.
En tant que porte-parole du MEDEF dans cette entreprise.
Non, mais vos observations.
Je m'oppose.
Voilà.
Je m'inscris en faux. Voilà. Parce que, non, c'est très sérieux. Le vice-président du MEDEF a déclaré que les augmentations de salaire ne se faisaient pas par décret.
Et que c'était fini.
Voilà, le temps où, on disait aux entreprises d'augmenter.
Mais oui, bien sûr. Et les bénéfices, eux, se font, font la pluie et le beau temps. Et en fait, la troisième observation. Et ça, c'est intéressant parce que ça apporte vraiment du grain à moudre d'argumentaire aux keynésiens et ceux qui sont pour une nouvelle économie repensée au niveau de la finance, je pense notamment aux économistes atterrés, c'est quoi? Et ça, c'est un argument choc pour le rétablissement de l'IFF, c'est que voilà la contradiction pertinente dans la réalité du tissu social et économique d'un pays développé, comme quoi la théorie du ruissellement, c'est du pipeau.
Tout à fait.
40 milliards d'euros réinvestis, offerts aux grandes boîtes, résultat, pas un copec. Et copec, ça vaut pas cher.
Pour l'emploi, hein.
Pour l'emploi, et pas un zloty pour l'investissement, alors qu'on nous crie, on nous rabat à longueur de journée dans la prose libérale que la recherche et l'investissement, c'est l'avenir du développement économique et du bien-être de la société marchande. Bah voilà, alors là, t'as un exemple qui est patent. C'est 40 milliards, c'est la marge aujourd'hui de manœuvre pour sortir notamment d'une crise qui s'appelle les gilets jaunes dans le cadre de l'augmentation du SMIC et des bas salaires et des renégociations au niveau des accords de branche et des accords collectifs. Donc les sous, on les a.
Dans les caisses du patronat.
Voilà. Il faut simplement les redistribuer aux gens qui sont la force de travail, en fait, les ouvriers, les salariés. Parce que les patrons, ils font quoi à part manger dans un restaurant pendant 3 heures D'accord, ils sont.
Alors, moi, je précise que non seulement les augmentations de salaire sont quand même, sont pas pour tout le monde. En fait, c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est-à-dire que les hauts salaires, eux, ont des augmentations. Évidemment que les travailleurs du bas de l'échelle, dits peu qualifiés, eux n'ont pas d'augmentation. Mais en plus, il n'y a pas eu d'augmentation de cotisation, par exemple, d'assurance chômage, puisqu'on parle du déficit de l'assurance chômage depuis 20 ans,
oui,
30 ans.
Ouais, tout à fait.
Et pas non plus celle des retraites. Et donc, c'est-à-dire que même le salaire différé est impacté. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, quand il y a une telle compression salariale sur 30 ans, bien entendu qu'un coup de pouce massif sur les salaires est bon pour l'économie. C'est ce qu'a fait le Portugal et... Enfin, je crois que les économistes seront bientôt convaincus de ça, parce que le FMI l'est déjà.
Oui, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on avait une tendance très libérale sur l'orthodoxie budgétaire, la révision des politiques publiques, générale des politiques publiques dans le cadre de l'austérité, de l'emploi de l'État et autres administrations. Et en fait, on se rend compte que réinvestir dans l'économie réelle tous ces milliards liés à un impôt ont un sens réel dans une économie capitaliste.
Très bien. Ben, tu vas garder la parole un petit peu, Christophe, s'il te plaît, pour nous parler un petit peu des 30 ans du RMI et du RSA, alors, qui fête donc cette 30e année, c'est un anniversaire, en fait, pour le coup.
Eh oui, on l'oublie souvent, mais le revenu minimum, ancien revenu minimum d'insertion, il a été créé en 1988 par Michel Rocard. Il a 30 ans. Au départ, ça s'appelait revenu minimum d'insertion. Et c'est devenu en 2009 le revenu de solidarité active, cher à Martin Hich. Or, au départ, c'était pour avoir un filet de sécurité. Hein. Sauf que quoi, en 30 ans, le nombre de bénéficiaires a explosé. C'était il y a 30 ans, une loi votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale donnait naissance donc au revenu minimum d'insertion. Michel Rocard, alors Premier ministre de François Mitterrand, voulait offrir un filet de sécurité aux plus pauvres. Sauf que 30 ans plus tard, où en est-on ? On est passé de 330 000 Français au RMI en 88 à 1,8 million de bénéficiaires du RSA en 2017. Ce revenu de solidarité active qui a remplacé en 2009 le revenu minimum d'insertion est aujourd'hui de 550 euros par mois.
Hein. Pour une personne seule.
Pour une personne seule. Selon le ministère de la Santé, il y aurait 6% de la population française qui, au moins, qui, où une personne touche le RSA, ce qui est énorme. Et la conclusion de ces 30 ans de cette politique, c'est que malgré ce succès, entre guillemets, le RSA est accusé par certains de représenter des dérives de la assistanat à la française, hein, comme si on pouvait vivre avec 550 euros par mois, sans pourtant parvenir à sortir les allocataires de la pauvreté et du chômage. En fait, en réalité, en France, la grande pauvreté ne cesse de progresser et 600 000 jeunes vivent en situation de grande difficulté. C'est ce que déclarait récemment au Parisien Claire Edon, la présidente d'ATT Quart-Monde, l'association qui est donc à réaliser les premières expérimentations donnant naissance au RMI. Alors, il y aurait un nouveau, l'idée de Emmanuel Macron, ça serait de créer un nouveau revenu universel d'activité en 2020. Donc, 11 ans après la création du revenu de solidarité active, il y aurait un RUA, un revenu universel d'activité, qui verrait le jour en 2020. C'était une annonce qu'il avait fait dans le cadre de son plan pauvreté. Hein, sauf que la question qui se pose, c'est que ça serait une aide qui fusionne en fait le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État est entièrement responsable. Donc c'est l'allocation spécifique de solidarité, c'est l'allocation adulte handicapé pour les handicapés qui peuvent pas travailler, c'est l'aide pour l'autonomie. Là, c'est pas des choses comme ça. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va égaliser des choses par le haut ou par le bas, financièrement?
Très bien, merci. Alors moi, je voudrais juste, pour finir cette émission, parler quand même un petit peu de la violence policière de ces derniers jours, depuis les Gilets jaunes. Juste d'abord, je tiens à dire que je pense que tout le monde est d'accord avec moi, que moi, je soutiens complètement les lycéens dans leur révolte, hein, puisque apparemment 700 lycéens ont été arrêtés et placés en garde à vue et en comparution immédiate. Moi, j'étais choqué par les photos. Je sais pas si vous les avez vues, mais j'étais choqué par les photos où on voit les lycéens sur les genoux avec la tête baissée, avec la main sur la tête. Ce qui m'a rappelé quand même les heures les plus sombres de notre histoire, hein, on va dire ça comme ça, même de pays fascistes, pour le coup. Hein, souvenez-vous, l'Amérique latine, où les mecs se faisaient descendre de la même manière, en fait. Hein, ils étaient effectivement sur les genoux avec la tête en bas et les mains dessus. Enfin bon. Et moi, je considère que la violence policière, donc je vais dire peut-être une palissade, hein, est disproportionnée par rapport effectivement au mouvement des lycéens, en tout cas des lycéens, parce qu'à partir du moment où un État s'attaque à des enfants, enfin pour le coup c'est des enfants, hein, ils sont mineurs, là tout est perdu pour le coup, parce que là faut c'est perdu pour l'État, enfin c'est perdu pour le gouvernement, parce que la solution, comment ils vont sortir de là pour le, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée sur le sujet, mais
Une marque au casier judiciaire.
Voilà.
C'est-à-dire que pour leur avenir.
Voilà. Voilà.
Et ce qui est le plus inquiétant, en fait, c'est les arrestations de masse. C'est surtout ça qu'on voit maintenant dans les manifs et que ça se produise à la sortie du lycée. C'est-à-dire que l'État est tellement démuni qu'il préfère mettre. Il y a eu des violences, hein,
oui, oui.
Les lycéens. Mais que voilà, pour mettre tout le monde au pas, bah, j'arrête tout le monde. C'est un peu comme à la fin d'une manif où il y a un cordon de flics qui est tellement important qu'on prend tous les manifestants qui sont là parce que la manif devrait être dispersée. C'est exactement la même chose.
Oui. Très bien. Vous pouvez peut-être ajouter quelque chose, non, sur le sujet.
J'espère que les personnes qui sont chargées du maintien de l'ordre n'auront pas un esprit de revanche et guerrier demain.
Oui.
Parce que c'est un petit peu le ressenti qu'on a, sachant qu'effectivement on connaît très bien les mouvements extrémistes qui de toute façon sont là pour casser quoi qu'il arrive, quelle que soit la couleur gouvernementale. Ça a toujours été comme ça dans une tradition française et puis dans les pays qu'on...
L'extrémisme, c'est toujours pour se rassurer, parce
voilà.
Que quand c'est tout un...
Mais là, on peut vraiment se poser une question. J'aimerais qu'il y ait un peu de mesure, hein, et de sérénité.
Très bien. Alors cette émission se termine, mais j'ai deux petites annonces à Anne. Voilà. Donc déjà, bon, demain, pour ceux qui peuvent aller dans la rue avec ou sans gilet jaune, mais en tout cas montrez-vous pour voilà pour contester effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement, hein, puisque
pacifiquement,
ce serait le mieux effectivement hein, pour le coup. Et donc c'est demain, hein, évidemment sur Paris et sur la région parisienne, également en province, mais également le mardi 11 décembre 2018. À 13h30 devant le MEDEF, au 55 avenue Bosquet, venez nombreux, c'est métro, école militaire, pour réagir contre les renégociations à UNEDIC, hein, pour le coup. Voilà, donc c'est donc le mardi 11 décembre à 13h30. Voilà. Cette émission se termine. Messieurs, je vous remercie de l'avoir faite avec moi. Merci à Claude pour la technique. Je fais un gros bisou aux filles, une poignée de main aux garçons.
Bonsoir.
Et à bientôt. Ciao.
Bonsoir.
Au revoir.
Toi aussi, tu m'abandonnes. Oh, mon unique amour. Toi, nul ne pourra plus jamais rien.